terre étrangère, histoire d'exil. Avec Radio U, ça fait plusieurs années qu'on bosse avec l'école alternative des Monts d'Arrée à l'occasion d'ateliers radio. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'école alternative est portée par l'asso Les Utopistes en Action. Ils aident des migrants, ou plutôt des immigrés, des sans-papiers comme on dit. Ils leur apportent un hébergement, une aide administrative pour justement en obtenir des papiers. Mais c'est pas tout, c'est surtout une école. Avec du français, des maths, de la science, du breton, de la radio donc, et du théâtre. Du théâtre avec cette année Karine Gualdaroni et Jérémy Bernard de la compagnie juste après. On s'est embarqué, avec l'aide du théâtre du Pays de Morlaix, dans un projet qui... comment dire... nous a un peu dépassé. À l'origine, Terre étrangère, c'est une résidence de création à la fois dans une école d'Ennebon, dans le Morbihan, et à l'école alternative. Le but, eh bien créer une pièce de théâtre qui parlerait de la migration aux enfants. Pour faire tout ça, on a demandé aux gars, oui on les appelle comme ça, les gars de l'école alternative, on leur a demandé s'ils voulaient bien nous parler d'eux. C'était la première fois que je leur demandais de me raconter leur histoire. Ça a souvent rouvert des blessures, parfois libéré la parole, en tout cas le but était qu'elles puissent s'exprimer et qu'on puisse les entendre. Pour ce premier épisode, je vous propose d'écouter l'histoire d'Ismaël. Avant de vous laisser l'écouter, je tenais tout de même à vous prévenir que certains passages peuvent choquer, être très durs à entendre, mais c'est la réalité d'une traversée. Bonne écoute.
Moi je peux dire que ça n'a pas été facile. Déjà quitter la famille étant jeune, bon... très très jeune et puis venant à l'aventure, ça peut être facile. Moi, ce qui m'a poussé à venir à l'aventure, bon déjà, c'est la séparation de ma maman avec mon papa. Moi, ma maman, elle vivait au centre de la Côte d'Ivoire. Mon papa, lui, vivait au nord. Quand il y avait des cérémonies, il se voyait. Donc moi, j'ai vécu avec ma grand-mère dans une grande cour familiale où il y avait mes oncles. Moi, c'est pas là à l'école. Moi, j'ai fait l'arabe et puis on faisait le français. Donc je partais dans les champs de cacao en Akkad. Donc souvent, je voyais des enfants aller à l'école. Moi, j'avais envie d'aller à l'école. On me disait, bon, si tu vas à l'école, qui va faire des travaux champêtres, qui va faire ça? Bon. Mon oncle, le frère de mon papa, lui, c'est lui qui prenait la décision parce que c'est lui le plus âgé de la famille. Bon, moi, je me confiais à ma grand-mère, mais elle était très vieille. Souvent, bon, elle prenait les décisions, mais on ne l'écoutait pas. Donc, ça, elle seule, souvent, quand j'arrive à la maison, on prépare la nourriture. Si tu n'es pas là, un exemple, on te dit, à partir de midi, on fait la nourriture, tu n'es pas là, tu ne gagnes pas à manger. Mais souvent, je venais avec la faim. C'est ma grand-mère qui gardait un peu la nourriture pour moi. Et puis mon papa, parce que mon papa n'est pas là, maman n'est pas là, tu sais pas, tu vas te plaindre avec qui? Seule ma grand-mère. Donc avec cette situation, un jour moi j'ai dit à ma grand-mère, avec ça, je ne vais pas pouvoir rester ici. Donc ma grand-mère, elle dit, tu vas aller te chercher où? Donc je lui ai dit, je vais venir en France. Mais elle dit, tu as fait comment? Elle dit, elle me débrouiller. Donc c'est comme si là, j'ai commencé à travailler un peu, je faisais des petites économies. Puis dans le champ, j'ai un ami, mais lui il est plus âgé que moi. Lui aussi, ils ont des champs de cacao où on travaille ensemble. Donc c'est avec lui que j'ai préparé mon voyage. Je lui disais, moi j'ai envie de venir en France. Lui aussi dit pareil. Donc on a commencé à travailler, moi et puis lui, un peu, jusqu'à, on a eu une somme. Après un bon jour, il a dit à ma grand-mère, il a dit, moi, je suis prêt avec Suleymane. Ma grand-mère, elle avait peur, mais elle dit, c'est vrai que c'est pas facile, mais tu as ma bénédiction. Et depuis ce jour, moi aussi, ça n'a pas été facile. Donc moi, je me suis dit, soit j'arrive en France, soit c'est le contraire, soit je reste dans l'eau, soit dans le désert. C'est un choix que j'ai fait. Donc j'ai pris la route de l'aventure au Mali. Parce que nous avons pris y a des voitures de commerce où on transporte des condiments, des pommes de terre, tomates, oignons. Donc nous sommes rentrés dans le camion, moi et puis Suleiman. Quand nous sommes rentrés dans le camion, nous sommes arrivés au Mali, à Bamako. Maintenant, à Bamako, on a fait 2 jours là-bas. Et puis après, à Bamako, on a retrouvé des amis aussi qui venaient sur l'Algérie. Eux étaient au nombre de 3. Donc eux aussi, c'était des Ivoiriens et puis avec des Guinéens. Donc comme c'est la famille, on a fait un groupe ensemble. Puis après, on a préparé le voyage maintenant pour l'Algérie. Quand nous sommes arrivés à l'Algérie, ça a été difficile. Parce qu'à l'Algérie, le Souraka, genre, l'arabe, il vous prend. Il peut vous dire, bon, d'envoyer une somme de 1000 dinars. Quand vous arrivez 1000 dinars, c'est lui qui vous guide. Vous êtes dans le désert. Parce que dans le désert, il n'y a pas de route. Tu ne vois pas de route. C'est seulement que les traces de pieds. Vous suivez. Nous sommes dans le désert. On a fait près de 3 jours dans le désert. Et puis dans une voiture de pick-up. Pick-up, il y avait environ près de 20 personnes dans le pick-up. Mais dans le pick-up, on met des bois. On met des bois. Et puis on attrape le bois. Genre, on nous entasse dans la voiture. Puis on prend la route. Maintenant, quand on prend la route, le chauffeur, mais lui, on ne le parle pas. Lui, il est assis devant. Lui, on ne le parle pas. Et puis, moi, je ne savais pas. Donc, dans la voiture, il y avait un qui avait, je ne sais pas si c'est quelle maladie, épilepsie. Donc, lui, il n'arrivait pas à bouger. Donc, on dit au chauffeur, il n'a qu'à garer. On va essayer de lui donner l'eau. Il va boire. Le chauffeur dit non, il ne gare pas. Il dit si, il gare ici. Nous tous, on meurt. Donc, il dit, il ne peut pas garer ici. Donc, on arrivait devant où il avait la garde algérienne. Donc, il nous a laissé là. Il dit, on n'a qu'à descendre là. On dit non, mais nous ne sommes pas arrivés. Il dit, descendez là. Il dit, si on ne descend pas, il avait une calache. Il en avait une calache. Il dit, si on ne descend pas ici, il va tuer nous tous ici. Tout le monde est descendu. Maintenant, pour arriver en Tunisie, on devait faire près d'au moins 200 km ou 150 km de marche. Maintenant, où nous est laissé, tu es obligé de partir parce qu'il y a la garde algérienne. Si tu ne marches pas, si la garde algérienne te prend, ils vous envoient au Niger. Donc maintenant, il y a un guide aussi. Lui, il est là devant. Maintenant, quand il nous a vu, lui, il a vu la situation. Bon, lui dit, lui peut nous aider. Mais lui, chacun donne 2000 dinars algériennes. Maintenant, si tu donnes la somme, maintenant, c'est lui qui vous guide. Il vous guide dans le sable. Maintenant, pour nous guider, c'est les traces de pieds qu'on suit. On a marché près de 3 nuits dans le désert. Il y a d'autres même, peut-être dans le désert, nous étions nombreux. Il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait pas à manger. Il y a d'autres qui sont restés dans le désert. La fraîcheur, c'était pas facile. Il y a d'autres qui sont restés. Souvent même, il y a des amis que nous sont venus, ils sont restés dans le désert. Ils sont tombés devant nous. Mais tu ne peux pas les transporter parce que tu n'as plus la force. Suleiman, c'était pas facile. Donc Suleiman m'a dit que lui, il va pas pouvoir continuer la route. Donc Suleiman, lui, il est resté dans le désert. Donc c'est moi, avec les autres, on a continué, nous avons continué, jusqu'à arriver en Tunisie, première ville, Tamaracet. Comment moi, je suis qu'on arrive à Tamaracet? Parce qu'il y a des panneaux. Ils ont mis Tamaracet en arabe et puis en français. Parce que moi, je savais lire un peu. Les autres, ils ne savaient pas lire. Première ville, nous sommes arrivés dans une famille en tunisienne. On avait peur parce que déjà en Tunisie, un noir, quand tu as la peau noire, tu n'as pas le droit de rester dans la ville. Parce que déjà en Algérie, si tu travailles en Algérie, c'est que tu vis dans les chantiers. Tu te caches pour travailler. Tous ceux qui ont traversé l'Algérie savent. Un noir n'a pas le droit de rester en Algérie. Si tu restes en Algérie, si les policiers te voient, ils t'attrapent. Ils t'envoient au désert de Niger. C'est obligé. Donc quand les policiers venaient dans les chantiers, souvent les policiers venaient dans les chantiers, les gens sautaient de deuxième et troisième. Il y a d'autres qui mouraient, leurs pieds se cassaient plein. Donc ils se cachaient. Et puis les chantiers, c'est chantier des Chinois. C'est les Chinois qui ont les grands bâtiments. D'autres, ils ont fait des années de travail là-bas pour chercher l'argent de voyage. Maintenant, ceux qui viennent aussi, ils ont un peu au pays. Et ils viennent, ils travaillent un peu. Et puis, ils vont aussi l'Italie. Maintenant, si tu n'as pas l'argent aussi, quand tu arrives en Algérie, tu travailles, tu peux faire un an ou deux mois ou deux ans même. Tu travailles, tes économies, tu gardes. En Tunisie aussi, il y a un coxswain, un coxswain, lui qui fait les convois des bateaux. Lui, tu peux venir le voir et puis il va te mettre dans le voyage. Donc, quand nous sommes arrivés en Tunisie, moi, je n'avais pas assez d'argent. Je ne connaissais personne. Je suis resté près de moins un mois. Ouais, je suis resté près de un mois. Je travaille un peu parce qu'en Tunisie, il faisait des travaux de maçon. Et puis, il lavait souvent les voitures. Il faisait un peu de tout. Jusqu'à j'ai gagné un peu. Puis, il est donné au camo. Au camo. Et puis, il y avait un voyage sur l'Italie. Nous étions au nombre de 37 personnes. C'est un bateau en fait. Et puis, ils ont fait le lancement. Puis moi, ils m'ont mis dans le bateau. C'est comme ça que c'est arrivé en Italie. Mais dans la Méditerranée aussi, c'est pas facile. On a commencé le voyage à minuit. Nous avons fait deux jours sur l'eau. Il n'y a pas de capitaine. Moi, j'étais le boussole. Moi, j'ai pris mon téléphone. L'arabe, il m'a montré. Il dit, tu regardes ici, c'est le nord. Ici, c'est le sud. Là-bas, c'est l'est et l'ouest. Mais on peut former une personne. C'est lui qui vous guide jusqu'à Lampedusa. Il n'y a pas de capitaine. Donc, c'est le capitaine comme ça. Lui, il était là. Donc, on n'avait pas confiance à lui, mais on n'avait pas le choix. Parce que si tu ne montes pas, tu vas rester en Tunisie. Alors que si tu restes en Tunisie, là, tu ne sais pas quand tu as voyagé. Donc, tu es obligé de monter. Il y avait des femmes, il y avait des bébés. Ce n'était pas facile. Ce qui m'a un peu touché souvent, c'est les femmes enceintes. Parce que dans notre convoi, il y avait des femmes enceintes, avec des bébés nouveau-nés. 7 mois, 4 mois, ils pleuraient. Et puis souvent, toi-même, tu as la peine pour toi. Mais quand tu regardes les femmes avec les enfants, parce que moi, c'est un homme aussi beaucoup sensible. Bon, quand j'entends le pleur des bébés, ça me fait mal. Il a dit, si Dieu le veut, on va arriver. C'était pas facile. Après, on partait. On a fait une nuit. Après, le bateau, ça s'éteint. Il y avait plus de solution. On ne savait pas comment on allait faire. Comme il y a quelques-uns qui connaissaient comment on répare les moteurs, lui, il a fait la mécanique au pays. C'est lui qui a pris les tournevis, il est rentré dans l'eau. Quand il rentre dans l'eau, il dit que non. Il va essayer de voir s'il y a un moteur là, s'il y a panne dedans, il va essayer de. Donc il a fait, puis déjà a fait grâce. Ça a démarré. Puis quand ça a démarré net, on a continué notre chemin. C'est le lendemain. Avant, nous ne sommes pas arrivés à Lampedusa. On a vu les gens, on a vu des bateaux italiens. Ils sont venus accoster, ils sont venus secourir. Avant d'arriver même, on a vu des poissons parce que on avait déjà pris l'information. On dit si tu arrives déjà sur l'eau bleue, sur la Méditerranée, tu vois des poissons et puis l'eau est bleue. Quand moi j'ai vu des poissons et puis l'eau bleue là, nous sommes presque. Et puis en vrai, j'ai vu. La garde italienne sont venus chercher. Quand la garde italienne est venue chercher, les gens riaient, il y a d'autres qui pleuraient, il y a d'autres qui n'y croyaient pas. Et puis, ils sont allés nous à Lampedusa. C'était comme ça. Maintenant, après Lampedusa, on a fait une nuit à Lampedusa. Il y avait plein de personnes. On nous a donné des cartes. Il y avait des numéros là-dessus. On nous a départagé. Puis on nous a donné des sacs où il y avait des habits, des pâtes, dentifrice, des brosses à dents. Et puis, avec la carte, quand il faisait soir à 19h, on partait chercher à manger. le lendemain, on nous a pris chacun, on nous a envoyé dans un grand bateau. Dans un grand bateau la nuit, mais moi j'ai pas bien vu, dans un grand bateau à traverser une, je sais pas c'est quelle ville. On a traversé, après on nous a envoyé encore dans une ville où il y avait des grilles. C'est pas quelle il y avait des grilles, nous étions enfermés entre les quatre murs. Il est toujours en Italie, entre les quatre murs. Maintenant, après, on nous a pris, la police nous a pris, on nous a fait sortir, après on nous a mis dans le car. Après le car, maintenant, nous sommes arrivés où? À Milan. C'est à Milan maintenant, on nous a départagé. Chacun, et puis moi et puis mes amis, il y a quelques-uns, eux sont restés à Napoli. D'autres sont restés à Milan, d'autres sont restés à Sicile. Moi, j'étais à Milan. Moi, ils m'ont déposé à Milan. Maintenant, à Milan, moi, j'ai fait 2 semaines. 2 semaines, je ne faisais rien. Donc, je ne faisais rien. Moi, depuis au pays, moi, j'ai rêvé de venir en France. Parce qu'il me dit, en France, depuis le pays, c'est déjà dans ma tête. France. Si je viens en France, je vais pouvoir aller à l'école. Je vais pouvoir faire ce que je veux travailler. Moi, c'était ma décision qui était là. Moi, Italie, vraiment, quand moi, j'arrivais en Italie, c'était bien, on mangeait, tu dormais bien. Mais en Italie, moi, je faisais rien. Donc, moi, je dis, si je viens en France, je vais aller à l'école. Moi, mon but, c'était de partir à l'école. Parce qu'en Italie, je ne faisais rien. Donc, en Italie, maintenant, avant de venir en Italie, j'étais allé. Parce qu'il a dit ça, dans le campo, il y avait des amis à moi aussi. Mais on ne sont pas quittés encore devant ensemble. On se connaissait. Dans le campo, donc eux aussi disent qu'ils veulent venir en France. Donc nous avons fait la route ensemble. Nous sommes allés à la gare de Milan. Le train, comme on avait un peu d'argent sur nous. Nous sommes entrés dans le train. Dans le train, on a vu, comme il y avait des contrôleurs, maintenant il y a des amis, on a demandé aux gens comment on fait pour venir en France. C'est des gens qui nous ont dit, si tu veux venir en France, il y a le train, tu prends le train, ça après. Dessin ici, donc nous sommes rentrés dans les trains comme ça pour venir en France. Maintenant, dans les trains là, il y avait des contrôleurs. Quand nous sommes arrivés, je sais pas c'est quelle ville, les policiers étaient là. Ils disent que les tickets, on dit on n'a rien, les tickets, donc ils nous ont fait descendre. Moi j'avais peur pas qu'ils vont nous prendre, puis après ils vont nous envoyer encore. Nous sommes quittés, mais après on nous a mis un peu devant. Après là, il y a un ami qui dit que on n'a qu'à changer de train, on n'a qu'à prendre, c'est un peu jusqu'à nous sommes arrivés en France. Maintenant, quand nous sommes arrivés en France, nous sommes arrivés à Paris. À Paris aussi, il y avait plein de jeunes aussi dans la gare. Plein de jeunes dans la gare. Et puis, il y avait des messieurs, ils nous ont vus. Ils disent que vous êtes venus faire quoi, vous êtes quittés. Nous sommes quittés en Italie. On voulait venir en France, on est venu à Paris. Maintenant, le monsieur dit qu'à Paris ici, il y a beaucoup de gens comme vous, Paris n'est pas bon. Si on peut aller dans autre ville, c'est mieux. Donc le monsieur nous a vu, il nous a donné 20 euros. Et puis il a payé pain pour nous, on mangeait pour nous, on a mangé. Et puis le monsieur dit, ici c'est pas mieux, c'est mieux. On va dans une ville où on peut se sentir bien. Parce que ici, les gens ils sont dehors, c'est pas bon. C'est comme ça, moi je suis arrivé à Brest. Après, nous sommes arrivés à Brest, même chose, nous sommes rentrés dans le train. Avant de rentrer dans le train, on s'est caché pour rentrer dans le train. On n'avait pas l'argent sur nous, on s'est caché d'entrer dans le train. Quand nous sommes rentrés dans le train, il y avait des contrôleurs, mais on ne nous a pas vus. Comme ça, c'est arrivé à Brest, à Brest aussi, jusqu'à quand il s'est arrivé à Morlaix.
Dans le prochain épisode, vous retrouverez le parcours d'Oumar, surnommé affectueusement ici Petit Oumar.